A du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, cette semaine, C'est pas du vent a installé son studio à Genève, au centre de congrès Palexpo, où pendant trois jours se sont déroulées les 19e assises européennes de la transition énergétique. 3500 personnes sont venues de toute l'Europe pour échanger, témoigner et débattre dans plus d'une centaine d'ateliers, de conférences et de visites thématiques dans un seul but, coopérer pour réussir la transition énergétique. Les villes jouent un rôle essentiel, nous en parlerons dans la deuxième partie de l'émission. L'innovation aussi est nécessaire pour s'émanciper des énergies fossiles et ça ne manque pas ici. Nous allons vous en donner un petit aperçu tout de suite avec nos invités.
C'est pas du vent sur RFI.
Comment s'émanciper des énergies fossiles qui représentent encore 85% du mix énergétique mondial? C'est une problématique très concrète ici à Genève et en France où la part des énergies renouvelables ne représente qu'à peine 16% de la consommation, ce qui fait qu'elle est en retard sur son objectif de 23% d'énergie renouvelable en 2030. Alors peut-on compter sur l'innovation? On en parle avec nos invités. Christian Brunier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en charge du programme Genilac au service industriel de Genève. Michel Meyer, bonjour.
Bonjour.
Responsable du programme Géothermie 2020 au service industriel de Genève. Et Thierry Trouvé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de GRT Gaz. Alors Thierry Trouvé, avec l'ADEME et GRDF, vous avez dévoilé cette semaine à l'occasion de ces assises une étude qui démontre que les 11 millions de foyers français qui dépendent aujourd'hui du gaz importé de Russie, d'Algérie ou de Norvège pourraient être alimentés par du gaz 100% renouvelable d'ici 2050. Alors qu'est-ce que c'est du gaz 100% renouvelable?
Le gaz n'a pas toujours été naturel, c'est-à-dire venant des gisements de pétrole. Il y a 100 ans, le gaz était fabriqué dans des usines à gaz, c'était le gaz de ville. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de verdir le gaz et de faire du gaz vert. Alors, qu'est-ce que c'est que du gaz vert? Il y a plusieurs sources possibles. La première, c'est la méthanisation. Prendre des matières agricoles à la ferme et les faire fermenter dans un méthaniseur fermé. Et ça produit du gaz qui est comparable au gaz naturel d'aujourd'hui. La deuxième, c'est la pyrogazéification.
Oula, c'est un gros mot.
Alors, mais c'est quelque chose qu'on connaît bien, puisque ça existait il y a 100 ans. On prend des matières organiques, donc aujourd'hui plutôt des déchets, du bois. On les chauffe et on fait à partir se dégage de ces matières, de nouveau du gaz qui est comme le méthane d'origine fossile, mais simplement c'est du gaz renouvelable après épuration. Et puis la troisième technologie, c'est le power to gas, c'est-à-dire de faire avec de l'électricité renouvelable qui est par moments excédentaire, parce que il y a du soleil et du vent.
Donc les panneaux solaires et les éoliennes.
Voilà, parfois il y a plus de soleil et de vent que de consommation d'électricité, parfois c'est l'inverse. Mais quand il y a plus d'électricité renouvelable, ben on la perd, c'est parce si on ne sait pas la stocker. Et donc l'idée, c'est de transformer cette électricité renouvelable en gaz renouvelable, de manière à pouvoir stocker cette énergie.
Alors, on passera sur comment on passe de cette électricité renouvelable en plus à un gaz, parce que c'est trop technique à la radio, mais on comprend bien que c'est donc un moyen de stocker l'énergie. Mais alors, petite question, ça reste du gaz. Donc, est-ce que ça émet toujours du CO2? En quoi c'est du gaz propre par rapport au gaz naturel?
Alors, c'est du gaz propre dans la mesure où le cycle du carbone est court. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui des énergies fossiles, c'est qu'on va chercher dans le sous-sol, sous forme de charbon, de gaz naturel ou de pétrole, du carbone qui est stocké depuis des millions d'années et on le rejette dans l'atmosphère. Là, ce dont on parle, c'est de prendre du gaz qui est déjà dans le cycle, notamment qui est dans les plantes, qui est dans l'atmosphère, et on le fait tourner très rapidement, c'est-à-dire qu'on l'utilise dans les usages classiques du gaz, donc le carbone part dans l'atmosphère, mais aussitôt, ce carbone est repiégé dans les plantes qui vont servir à produire le gaz. Donc on n'est pas dans un gaz fossile.
On rajoute pas du CO2, en fait,
on est simplement dans un cycle court du carbone, comme le cycle de l'eau, si vous voulez.
Christian Brunier, vous qui êtes directeur général des services industriels de Genève, expliquez-nous comment se passe le mix énergétique ici.
Alors au niveau de l'électricité, on est depuis le 1er janvier 2017 100% renouvelable. Donc sans nucléaire aussi, c'était aussi un débat en Suisse. Donc on est à la pointe au niveau de l'électricité, on est à la pointe aussi au niveau de l'efficience énergétique, puisqu'on a un programme qui a été lancé pour diminuer les consommations d'électricité dans un premier temps, maintenant aussi au niveau de la thermique. Et aujourd'hui, l'année passée, on a effacé la consommation de 55 000 ménages, ce qui est énorme pour une ville d'environ 500 000 personnes, donc c'est beaucoup.
Près de 10%, oui.
Et où on n'est pas terrible, c'est dans la thermique, c'est-à-dire le fait de chauffer et de refroidir les locaux, les appartements. puisque là, on est essentiellement sur du mazout. Alors, ce n'est pas notre entreprise qui le fournit, ou du gaz naturel, là, c'est nous. Donc, nous, on va utiliser le gaz naturel comme une énergie de transition. On va le verdir au maximum avec du biogaz, avec des certificats de compensation aussi. Et puis, on va développer la thermique renouvelable. Et pour développer la thermique renouvelable, eh bien, on a des sources inexploitées. C'est notre sous-sol.
Donc, c'est la géothermie, c'est ça ?
La géothermie, pilotée par Michel Meyer. Et puis, c'est Genilac, notamment. On a aussi d'autres procédés. Hein. Genilac, c'est de se servir du lac Léman comme une réserve énergétique magnifique. Donc, quand vous êtes à 45 mètres de profondeur, vous avez une température quasiment constante, qu'il fasse très chaud ou très froid dehors, où vous avez de l'eau à 7-8 degrés. Eh bien, si vous prenez de l'eau froide en été et que vous l'impulsez dans des quartiers, vous allez rafraîchir le quartier. Et puis, l'hiver, avec des pompes à chaleur, vous arrivez à réchauffer le même quartier. Donc là, on est vraiment dans du renouvelable pur et dur. Et on veut vraiment augmenter sensiblement cette part de renouvelable dans la thermique.
Alors, si on reste sur Genilac, c'est une infrastructure qui est très intéressante, qui pourrait intéresser certains de nos auditeurs. C'est difficile à mettre en place ce système d'aller chercher comme ça la température à 40 mètres de profondeur dans un lac?
Non, c'est assez facile. C'est souvent du bon sens, finalement. Après, ce qui est plus difficile, c'est de déployer des réseaux en plein centre urbain. On a une ville très urbanisée, avec une grande densité. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais autrement, on va simplement pomper de l'eau et on le diffuse dans des réseaux de froid l'été et de chaud avec des pompes à chaleur l'hiver. Donc c'est de la technologie assez simple, comme beaucoup de grandes inventions finalement, c'est du bon sens avant tout.
Alors autre technologie, donc la géothermie, on en parlait, Michel Meyer, il y a un programme ici, c'est Géothermie 2020. Alors expliquez-nous quelle est l'ambition.
Alors ce programme Géothermie 2020 est piloté finalement par les autorités cantonales. Mais SIG, en tant qu'entreprise publique, eh bien, finance et met en œuvre en fait ces opérations. Ce programme est lié à un constat qu'il y a quelques années, qu'on a un sous-sol qui est assez formidable, qui représente une ressource énergétique très très importante, une sorte de géant dormant de la transition énergétique, qui pourrait finalement satisfaire à des besoins thermiques pour aller vers le chaud, pour aller vers le froid, pour des solutions de stockage. Ce sous-sol, malheureusement, ici à Genève, il est assez mal connu. Et un des objectifs de ce programme, c'est de caractériser le sous-sol, de cartographier le sous-sol pour pouvoir savoir où se trouve cette ressource, en quelle quantité et comment pouvoir la valoriser. C'est un autre axe du programme. Il y a toute une série de mesures institutionnelles qui sont prises pour donner sa chance à cette thématique, pour planifier son arrivée dans le territoire.
Et donc, vous avez commencé à forer ?
On a commencé à forer sur une opération en cours en ce moment. Un premier forage qui est un forage de moins de 700 mètres de profondeur dans les couches calcaires que l'on voit sur les massifs jurassiens autour de Genève et qui plongent sous la ville. Des massifs jurassiens de calcaire qui sont certainement gorgés d'eau, mais cette eau est répartie de manière hétérogène et on a cherché des structures géologiques, on a mené des études préalables de cartographie du sous-sol pour trouver des structures géologiques dans lesquelles on présume que cette eau circule en belle quantité pour pouvoir la pomper et la restituer. Ce forage est un forage de relativement faible profondeur par rapport à ce qui se fait à l'échelle internationale, mais on avance pas à pas dans cette thématique pour graduellement gagner en compétences, gagner en connaissances et pouvoir faire cette transition grâce à cette nouvelle source d'énergie.
Oui, parce qu'on peut descendre très profond hein, en géothermie.
Tout à fait, et c'est vrai que nos voisins français dans le bassin parisien exploitent depuis des décennies des ressources à environ 2000 mètres de profondeur, de l'eau entre 65 et 80 degrés. Il y a plusieurs centaines de milliers de logements dans la couronne parisienne qui sont couverts par la géothermie. Et puis nos voisins du sud de l'Allemagne, de Munich, exploitent des ressources au-delà de 5000 mètres de profondeur, de l'eau au-delà de 150 degrés, dans des gros débits, hein, près de 200 litres d'eau par seconde. Et c'est des énormes puissances thermiques qui sont valorisées dans des réseaux de chauffage à distance, mais qui permettent aussi de co-générer. Lorsque cette chaleur n'est pas utilisée, durant les phases estivales notamment, il y a une conversion en électricité qui s'opère.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Nous sommes à Genève, au centre de congrès Palexpo, où pendant 3 jours se sont déroulées les 19e assises européennes de la transition énergétique. Nous parlons innovation avec nos invités. Genève mise sur la géothermie pour s'émanciper des énergies fossiles. La géothermie est la 4e source d'électricité dans le monde après l'hydroélectricité, le solaire et l'éolien, mais elle est en plein développement, comme nous avons pu le constater à Reykjavik, la capitale de l'Islande. C'est là que se trouve depuis 1979 le programme de formation géothermique de l'Université des Nations Unies, où viennent se former des étudiants du monde entier, comme nous l'explique Ludwig Leotson, le directeur du programme.
They come from countries that are classified as developing countries.
Ils viennent de pays classés dans la catégorie des pays en développement. Et bien sûr, de pays qui ont des ressources géothermiques. Et vous savez, il n'y en a pas partout. Les meilleures ressources sont associées aux plaques tectoniques, le long de la ceinture de feu du Pacifique, du Grand Rift Est-Africain, en Méditerranée. Donc l'essentiel des étudiants viennent des pays qui sont dans ces zones. En Afrique de l'Est, il s'agit de l'Éthiopie, du Kenya, de la Tanzanie, de Djibouti. En Amérique centrale et en Amérique du Sud, nous avons le Salvador, le Guatemala, le Costa Rica, le Nicaragua et les pays qui longent la chaîne des Andes comme la Bolivie, l'Équateur, le Pérou, la Colombie. En Asie, il y a l'Indonésie et les Philippines qui sont les deux pays qui ont les plus importantes ressources géothermiques au monde. Et puis, nous avons des pays comme les États-Unis ou le Mexique qui sont bien sûr pas en développement. Donc, ils peuvent quand même envoyer des étudiants, mais ils ne sont pas pris en charge par le gouvernement islandais. Nous sommes un programme ouvert, mais les bourses sont réservées aux étudiants des pays en développement.
Donc, on y va, on va les rencontrer.
Hello, Zekla. I have guests for you here.
Okay. Hello.
Hi.
Hi.
Tekla.
I'm Anne-Cécile.
Oh, okay. Nice to meet you. Hi.
D'où venez-vous?
I am from Kenya.
Je viens du Kenya.
Et donc au Kenya, la géothermie est apparemment en pleine expansion.
Yeah, in Kenya we have,
oui, au Kenya, nous avons près de 600 mégawatts installés en géothermie pour les besoins en électricité. Et oui, le gouvernement a l'intention d'aller plus loin car les prospections sont encourageantes. Ils ont prévu d'aller jusqu'à au moins 10 000 mégawatts dans la vallée du Rift.
Qu'est-ce que vous êtes venu apprendre ici?
Je suis d'abord venu une première fois en 2010. C'était mon premier séjour d'études longues sur la géothermie et c'était passionnant parce que je suis une scientifique spécialiste de l'environnement. Je devais apprendre tous les aspects de la géothermie, toutes les techniques. C'est très important pour mon travail parce que je dois avoir une vision globale de la technologie pour donner des conseils s'il y a des problèmes environnementaux.
Et vous restez ici combien de temps? Quelle est la suite de vos études?
À la fin de mon doctorat, je dois retourner dans mon pays pour travailler, pour partager mes connaissances. Je vais rentrer chez moi, dans l'entreprise de géothermie où je travaillais comme scientifique spécialiste de l'environnement. Elle est en plein développement et je vais reprendre mon poste.
Merci beaucoup. Thank you very much.
You're welcome. Yeah, thank you very much too.
Et voilà comment la géothermie est enseignée au niveau mondial, notamment pour la vallée du Rift. En Afrique, Thierry Trouvé, vous n'êtes pas dans la géothermie, vous êtes dans le gaz, vous nous parliez du gaz propre. C'est vraiment cette technologie qui va être développée en France de façon très importante dans les années qui viennent. Parce que la France a besoin d'un vrai mix énergétique et d'un coup d'accélérateur, on est en retard. Hein.
Absolument, absolument. La France est aussi beaucoup préoccupée de son système électrique et du mix électrique et elle a un peu négligé la question du gaz. Or, l'étude ADEME qui a été publiée hier montre qu'effectivement, à l'horizon 2050, 100% du gaz peut être du gaz renouvelable. Et par ailleurs, elle montre aussi la complémentarité entre le gaz et l'électricité. C'est-à-dire, aujourd'hui, les électriciens, ils ont un problème majeur, c'est comment stocker l'électricité quand il y en a trop, ou comment la compenser quand il n'y en a pas assez et quand les renouvelables ne fonctionnent pas. Et donc, adosser le système électrique et le système gazier sachant il a des infrastructures importantes, des stockages souterrains, donc on sait stocker un tiers de la consommation annuelle du pays, ce qu'on ne fait pas faire dans d'autres technologies aujourd'hui, notamment dans l'électricité, ça permet d'aller chercher les meilleurs optimums. Et au fond, l'innovation, je trouve, en entendant mes collègues autour de la table, c'est des sources multiples, la géothermie, le bois, les déchets agricoles, et aussi la complémentarité entre les différentes énergies, la chaleur, le gaz, l'électricité.
Alors la question que j'aimerais vous poser à tous les trois, c'est peut-on tout miser sur l'innovation? Parce qu'on voit régulièrement, évidemment, que ces innovations, elles ont besoin de matériaux qui, eux, ne sont pas infinis non plus. Donc il n'y a pas seulement l'innovation, Christian Brunier, il faut aussi, vous le disiez, limiter nos factures, consommer moins.
Alors, mais ça passe aussi par l'innovation. Alors, ça dépend ce qu'on met sous le mot innovation. Consommer moins, il y a des comportements, mais il y a beaucoup d'équipements. Si on veut faire de l'écologie positive, hein, moi je crois à l'écologie positive, il faut donner envie, il faut mobiliser les gens, leur donner de la fierté. C'est ce qu'on arrive à faire avec nos programmes d'économie d'énergie. Et là, on utilise les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on a des appareils ménagers qui consomment de moins en moins, etc. Et c'est vraiment cette innovation qui doit être mise en avant. Le développement durable, les énergies renouvelables, l'efficience énergétique, c'est vraiment essentiel. On est une planète en plein délire, on est au bord du suicide collectif, donc il faut agir rapidement. Et en plus, économiquement, ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine. Nous, aujourd'hui, on fait nos marges sur les énergies renouvelables, sur l'efficience énergétique. Les gens sont prêts même à payer un poil plus, mais c'est pas beaucoup, hein. Quand on voit la facture télécom comme elle a explosé dans les ménages, parce que le besoin devient de plus en plus grand, même si les tarifs
diminuent.
Pour payer
les factures des portables,
etc.
On
a un potentiel gigantesque et c'est de l'argent qui reste souvent au niveau local. On développe de l'énergie un peu comme l'agroalimentaire, bio et local. Il faut qu'on soit dans ce trend-là. Et c'est une vraie réussite au niveau social parce qu'on peut créer de l'emploi. Il n'y a pas beaucoup de domaines où on va créer de l'emploi dans l'avenir. Au niveau écologique, le bilan, il est là. Et puis au niveau économique, vous créez de la richesse locale. Ça, c'est sûr.
Thierry Trouvé, vous partagez ce constat ?
Complètement. Je vais donner juste un seul exemple. Quand on change sa vieille chaudière à gaz par une chaudière moderne à condensation, on fait 30% d'économies du jour au lendemain. Ça, c'est un exemple typique de ces équipements qui permettent de faire des économies. Et d'ailleurs, l'étude ADEME, elle considère qu'en 2050, la consommation en France de gaz, comme probablement dans d'autres pays, aura beaucoup baissé du fait des progrès de l'efficacité énergétique.
Donc il faut certes innover dans les sources d'énergie, mais aussi consommer
absolument
différemment.
Et moins.
Et moins. Michel Meyer ?
Oui, vous évoquiez en fait le paradoxe qu'il peut y avoir entre se tourner vers l'innovation qui a certains coûts et puis finalement aussi réussir à maîtriser les risques, les coûts. La géothermie est quelque chose de très intéressant pour nous ici à Genève parce qu'il y a des expériences à l'international qui sont faites. S'appuyer en fait sur une technologie existante, de la transposer dans un territoire qui ne la valorise pas encore, cette technologie qui existe depuis des décennies ailleurs, c'est pas un oreiller de paresse. C'est aussi finalement déployer en temps opportun quelque chose qui arrive à maturité. Et puis c'est pas parce qu'une technologie existe depuis 40 ans qu'il y a plus d'innovation qui s'opère. Bien sûr, il y a des innovations permanentes sur les équipements, il y a des gains d'efficacité permanent. Et la géothermie trouve de plus en plus sa place, ne serait-ce que parce que les niveaux de température requis dans les habitats maintenant sont beaucoup moins élevés qu'à l'époque. Donc finalement, une source un peu plus froide, à 30, à 40 degrés, va beaucoup plus trouver de preneurs, de clients, que ce qu'elle aurait pu couvrir comme besoin il y a 20 ou 30 ans.
Thierry Trouvé, sur les emplois en France, relocaliser par exemple la production du gaz au lieu de l'importer, ça représente un gisement d'emploi important ?
Oui, ça représente une activité complémentaire, notamment pour la profession agricole, le secteur agricole en France qui souffre pas mal sur le plan économique. Ça a été dit d'ailleurs par le président de la République il n'y a pas très longtemps. Ça représente aussi de l'emploi que l'on relocalise pour fabriquer les installations de biométhane, par exemple. Donc il y a vraiment un intérêt pour la balance commerciale, à faire que la France redevienne un pays gazier, mais avec du gaz vert cette fois-ci, au lieu du gaz fossile, pour l'économie.
Merci à tous les trois d'être venus dans C'est pas du vent. Restez sur RFI. Dans quelques minutes, toujours à Genève, nous parlerons du rôle des villes dans la transition énergétique. À tout de suite. Yeah.